D'abord, bonjour à tous. Donc, comme on dit faire, je m'appelle Ando. Donc, Ando Razaka Manarina, mais Ando, c'est très bien. Je pense que vous en souviendrez mieux. Donc, je suis ici présent avec ma famille. Donc, il y a ma fille Fanny qui est là debout. Et puis, ma femme avec ma dernière fille, au fond, Emmanuel et Mithy. Et donc, je suis à l'église de Nice, l'église biblique baptiste de Nice. Et pour vous présenter un peu à ceux qui ne me connaissent pas, à l'église de Nice, je m'occupe principalement des adolescents, des jeunes, mais aussi on a un programme le vendredi soir qui est de s'occuper d'un groupe de maisons où le but c'est d'apprendre la base. Ça, on l'a appelé, c'est la base et on est dans le livre de Romains. Pourquoi ? Parce que vous connaissez, sans base, on ne peut pas construire. S'il n'y a pas la base et que vous construisez, qu'est-ce qui va se passer quand il y a un coup de tempête ? Ça tombe. Donc il faut construire des bases. Et ce que l'on va voir aujourd'hui, c'est un peu pour moi un prolongement de ces bases-là. La base qu'on enseigne d'abord, pour vous dire un petit peu, notre texte sera dans 1 Pierre, mais le texte que je prends le vendredi soir se trouve dans Romains. Et dans Romains, il y a ce verset qui dit « Car je n'ai point honte de l'évangile de Christ, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Où on a dit l'évangile de Dieu, l'évangile de Christ, c'est la puissance de Dieu pour le salut. Et souvent on oublie où est-ce que Dieu a déployé sa puissance et pourquoi il l'a déployée. Quand on pense à la puissance de Dieu, quand vous parlez dans le monde, à quoi pensent les gens d'abord ? Au miracle ? On pense à quoi aussi ? La création. Quand les gens ne sont pas trop avec Dieu, quand ils pensent à la puissance de Dieu du temps des Romains, à votre avis, quand ils pensaient de la puissance d'un Dieu, de quoi ça parlait ? Prenez par exemple Zeus, sa puissance c'était quoi pour eux ? C'est le tonnerre. Quand vous prenez Arès, quand vous prenez tous les dieux, ils avaient tous une puissance pour de la destruction, pour de la punition, pour des choses qui sont là pour anéantir. Ils n'avaient pas de puissance pour sauver. Nous, le Dieu qui est prêché ici, qui est prêché aux Romains, c'est un Dieu qui était inconnu pour eux. Un Dieu qui a une puissance pour quoi faire ? Pour sauver. Voilà pourquoi dans les prédications que l'on fait, quand on prêche, on ne va jamais vous dire autre chose que « il faut que vous soyez sauvés ». Sauvés de quelque chose. Et cet évangile que l'on prêche, il est là pour parler de salut. Et donc, aujourd'hui, quand on va parler, dans 1 Pierre chapitre 2, que l'on va prendre, on va parler aussi de salut. Toujours de salut, de sauver. Sauvé par l'évangile. Prenez avec moi 1 Pierre chapitre 2, du verset 1er jusqu'au verset 5. La parole nous dit « Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur de la parole, afin que vous croissiez par lui, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. » On a un texte ici qui est, si on lit à partir du verset 1er, nous pousse à un premier encouragement. « Rejetant donc toute malice, toute ruse, toute dissimulation, l'envie, toute médisance. » Quand vous lisez ce début de phrase, quand il dit de rejeter ça, ça veut dire que c'est quelque chose qui est habituel ou anodin chez les hommes. Habituel. C'est quelque chose qu'il faut rejeter, c'est-à-dire que par nature, ça se trouve où ? Présent. Et présent chez qui ? Chez toutes les personnes qui lisent cela, ce texte. Donc chez nous tous. Et lorsqu'on se connaît, c'est effectivement quand même notre manière de faire, naturelle. On n'est pas du genre à être droit, sincère. On est plutôt du genre à ruser quand on veut quelque chose. Quand quelqu'un a quelque chose, on l'envie, on jalouse. C'est naturel chez nous. Quand on n'apprécie pas quelqu'un, on peut médire facilement. C'est naturel chez nous. Il n'y a pas besoin de nous l'enseigner. Vous n'avez jamais enseigné à un enfant comment médire, comment envier, comment user de ruse, comment dissimuler. Il le fait naturellement. Alors c'est quelque chose qu'il faut rejeter. Et dans le texte que l'on a ici, quand Pierre s'adresse à ces personnes, il s'adresse à des chrétiens, il ne s'adresse pas à des chrétiens dans une église. Il s'adresse à des chrétiens, je vais vous le lire, hein, à plusieurs endroits. Il dit, dans 1 Pierre, chapitre 1er, versets 1 à 2, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, et qui sont élus selon la présence de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Il s'adresse à des gens qui sont partout, des frères qui sont partout, pas dans une église particulière. Donc ce problème-là, ça concerne non seulement les gens à l'extérieur de l'église, mais les gens qui sont dispersés, qui sont des chrétiens un peu partout. Et donc ce message, au final, il est pour tout le monde. Aussi bien que vous soyez non-chrétien, que vous soyez chrétien, ce message, il s'adresse à vous tous. Que vous soyez de telle ou telle église, il s'adresse à vous tous, à nous tous. Et le but de ce texte, de ce livre, il le dit, c'est afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ et que la grâce et la paix soient multipliées là où se trouvent ces personnes. Alors aujourd'hui, c'est ce que nous allons voir. Comment nous pouvons être obéissants? Comment pouvons-nous rejeter cela? Et pourquoi nous devons-nous rejeter tout cela? Un pasteur m'a un jour lu ce verset, 1 chapitre 2, du verset 1 à 3, dans l'autre sens. Au lieu de le lire comme on l'a lu à partir de rejetant, il l'a lu à partir de « si vous avez goûté ». Et il est dit, si on lit dans ce sens-là, « si vous avez goûté que le Seigneur est bon, désirez comme des enfants nouveau-nés de lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, rejetant donc toute malice, toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. » Et parfois, ça éclaire de regarder dans un autre sens. Mais c'est la même chose. Pourquoi? Parce que d'un point de vue grammatical, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, c'est de l'indicatif. Et l'indicatif, ça sert à quoi? À indiquer. À indiquer un statut. Vous avez goûté que le Seigneur est bon. Puisque vous avez goûté que le Seigneur est bon, il y a un impératif. Un impératif, c'est quoi? C'est un ordre. Et l'ordre, c'est quoi? Désirer, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Et après, il y a ce qu'on appelle un participe. C'est-à-dire qu'avec l'ordre, il vient quelque chose qui va se faire avec. Et qu'est-ce qui va se faire? Rejetant donc toute malice, toute ruse, la dissimulation, l'envie, la médisance. Et ensuite, il y a même encore l'autre verset du verset 4 qui dit « En vous approchant ou approchez-vous de lui ». C'est « en vous approchant » le terme de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes. Et ça, c'est la vie du chrétien. Un chrétien, qu'est-ce qu'il a fait d'abord? Pardon. Il a goûté que le Seigneur est bon. Qu'est-ce que ça veut dire avoir goûté que le Seigneur est bon? Vous savez, quand on goûte quelque chose, on a deux réactions possibles. Deux réactions. Si vous aimez, vous faites quoi? Et quand vous n'aimez pas, vous faites « Burk, j'en veux pas ». Et parfois, c'est ça, quand on prêche l'évangile, il y a des gens qui font « Hum, c'est bon, je veux ce salut, je veux connaître ça, je veux vivre ça ». Et puis vous avez des gens qui disent « Ah non, ça c'est pas pour moi, c'est pas pour moi ». Mais par défaut, l'homme, comme dit dans Romains, il dit « C'est pas pour moi ». Pourquoi? Parce que ça veut dire quoi goûter que le Seigneur est bon? On l'a vu, hein, l'Éternel est notre berger. Vous savez comment est-ce qu'un berger garde ses brebis? Il les met dans quoi? Dans un enclos. pour les garder. Et les brebis égarées, elles sont où? À l'extérieur de l'enclos. Donc souvent, les brebis égarées, quand elles regardent l'enclos, qu'est-ce qu'ils se disent? Ah, ils sont enfermés, les pauvres. Ah, les pauvres, ils sont enfermés. Ah non, moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir une vie enfermée avec des barrières. Ah non, non, non. Moi, je suis libre dehors. Mais ce sont des brebis, on l'a vu. Et des brebis, est-ce que ça sait se défendre? Et dehors, qu'est-ce qui arrive à des brebis? Il y a des loups, il y a les intempéries, il y a beaucoup de choses. Au final, une brebis, si vous la laissez seule dehors, qu'est-ce qui va lui arriver? Ah, quasiment garantie. Qu'est-ce qui arrive à une brebis quand vous la laissez dehors? Même si vous utilisez les comptes, hein, toutes les brebis, quand elles restent dehors, quand elles sont loin de leur berger, qu'est-ce qui leur arrive? Elles meurent. Et les brebis égarées ne se rendent pas compte qu'à l'extérieur, qu'est-ce qui leur attend? La mort. C'est pour ça que le berger, il fait une chose, il appelle les brebis à venir dans l'enclos. Mais les brebis, elles sont là en train de se dire, mais je vais rester prisonnier, je ne vais pas rester là-dedans, je préfère être dehors. Mais ceux qui sont à l'intérieur, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est ça qu'on a lu tout à l'heure. Je suis bien là où je suis. J'ai goûté que le Seigneur est bon. Et nous devons, en tant que chrétiens, démontrer aux autres aussi dans notre vie, mais il est bon le Seigneur, dans ma vie de tous les jours. Toi, dehors, qu'est-ce que tu vas risquer? La mort, viens dans cet enclos. Viens, le Seigneur t'appelle, le Seigneur est bon. Le psaume 34, 9 dit, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Est-ce que vous êtes heureux d'être dans le refuge de l'Éternel? Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous le sentez? Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vos sens sont tous d'accord en train de se dire, il est bon? L'Éternel est bon. Si c'est le cas, montrez-le. Vous savez, avec les enfants, parfois vous leur dites, tiens, mange. Ils disent, ah non, je ne veux pas. Mais goûte d'abord. Ils vous disent que ce n'est pas bon avant même d'y avoir goûté. Pourquoi? Parfois parce que l'aspect ne les plaît pas. Ah, c'est un enclos. Ah, j'aime pas. Ça ne me plaît pas. Parfois, parce qu'ils ont entendu, les épinards, c'est pas bon. Donc, ils ne vont pas manger les épinards, c'est pas bon. Mais si nous en mangeons, si nous montrons que c'est bon, peut-être qu'ils vont se dire, bon, je vais peut-être goûter. Regarde, goûte, je vais goûter, goûte maintenant. Et c'est ça, la vie avec le Seigneur. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, alors il faut que ce soit quelque chose qui soit visible pour les autres. Et quand quelque chose est bon, qu'est-ce que vous faites? Si vous avez aimé quelque chose, on partage, mais on fait quoi surtout? Hein, il est bon ce gâteau, je peux avoir une autre... part. Et c'est ce qui nous dit le verset 2. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que vous croissiez pour le salut. Comment vous avez goûté que le Seigneur est bon? Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous soyez tournés vers le Seigneur? Est-ce que ce n'est pas sa voix que vous avez entendue? Est-ce que ce n'est pas sa parole rassurante qui vous a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos? Ce n'est pas son appel qui a fait que vous soyez venu. Et alors, où est-ce que vous iriez lorsque vous lui appartenez? Est-ce que ce n'est pas dans cette même voie, dans ce chemin? Est-ce que ce n'est pas son appel, sa parole, que vous allez encore désirer? Et rien d'autre. C'est bon, cette parole est bonne, et je veux revenir dedans. Je veux désirer cette parole. Comme qui? Comme un enfant nouveau-né. Moi, j'ai un enfant de 1 an. Je peux vous dire que son lait, elle le veut. Elle le veut, et quand elle ne l'a pas, vous savez ce qu'elle fait? Elle est comment? Elle est heureuse?
Elle crie.
Elle crie, elle pleure, elle est malheureuse. Pourquoi? Elle a faim, elle en a besoin pour grandir. Et pourtant, est-ce qu'elle sait l'effet que cette parole a dans sa vie? Est-ce qu'elle est capable de l'expliquer? Est-ce qu'elle est capable de comprendre à quoi sert ce lait? Non, mais quand elle a goûté, elle a vu que c'était comment? Bon, et donc elle en reprend. Et parfois, nous sommes là en train de nous dire, ah oui, mais il faut d'abord que je comprenne si, cela, etc. Il faut d'abord que j'étudie à gauche, tout, et là, je viendrai au Seigneur. Si vous avez écouté que c'est bon, mais revenez. Pourquoi vous attendez d'avoir un truc mathématique, hyper logique? Même un enfant ne fait pas ça. Il prend parce que c'est bon. Et si ça a été bénéfique pour votre vie, prenez cette parole, lisez-la, désirez-la, comme il est dit ici, comme le lait spirituel est pur. Comme des enfants nouveau-nés. Et ça, c'est le message ici. Pourquoi? Parce que ça va nous sauver. voyons parler encore de salut. En quoi le lait sauve un bébé? Il le dit, hein? Afin que par lui, vous croissiez. Un bébé, il a besoin de quoi pour grandir? Du lait. Donnez-lui du coca. Allez, on lui donne du coca à la place. Ça va donner quoi? Il va grandir? Ah, ça va donner des gaz. Ça va donner quoi aussi? Problème d'estomac? Ah, je suis d'accord. Donnez-lui de l'huile d'olive. C'est bon l'huile d'olive aussi. Donnez-lui du jus. Essayez tout ça. Est-ce qu'il va grandir? Il va avoir des gros soucis. Mais nous, chrétiens, c'est pareil. N'essayez pas de chercher ailleurs ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin de quoi? De la parole de Dieu pour grandir, pour être sauvé dans votre vie spirituelle de chaque jour, pour changer, pour être transformé. Et un bébé s'est transformé de chaque jour. Chaque jour, chaque jour. Je regarde la photo de ma fille au début, je regarde maintenant, c'est pas la même. Elle a changé. Et dans votre vie, est-ce que quand vous regardez vos débuts, vous vous regardiez à quoi vous ressemblez et à quoi vous ressemblez aujourd'hui, est-ce que vous dites, c'est le même? Vous pouvez dire, non, c'est pas la même personne. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu vous a nourri, vous a transformé, vous a fait croître dans le salut. Alors, comme le disaient les disciples, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Quoi d'autre voudriez-vous exploiter pour grandir, puisque ce sont ces paroles-là qui vont vous transformer? Nous transformer de quoi? Là, on parlait d'un bébé. Nous transformer de quoi? Rappelez-vous, par défaut, qu'est-ce que l'on fait? Quelle est notre manière de vivre habituelle? Comme les brebis égarées. On se fait dehors. Et qu'est-ce qui se passe dehors? Qu'est-ce qu'on se fait entre nous? Du bien? Par défaut, quand vous mettez un groupe de personnes ensemble, qu'est-ce qui existe toujours? Des disputes, des querelles, de l'envie. On a utilisé quoi comme autre terme? De la ruse, dissimulation, de la médisance. Voilà ce qui se passe toujours quand on est en groupe. Pourquoi? Eh bien, si on demande à chacun pourquoi, il va dire c'est sa faute à lui. C'est pas comme ça que ça se passe d'habitude. C'est lui. C'est lui qui a commencé. Ça, dans la cour de récré, ça commence déjà. C'est lui qui a commencé. Le problème, c'est toujours les autres. Mais quand vous parlez d'envie, ruse, dissimulation, médisance, ça se passe où le problème? À l'extérieur ou à l'intérieur de nous? À l'extérieur ou à l'intérieur? À l'intérieur. C'est pour ça que quand vous prenez ce lait spirituel, le lait, il va et vous allez vous doucher avec. Vous faites quoi avec le lait spirituel? Vous le buvez pour que ça aille où? À l'intérieur. Parce que le problème, il est à l'intérieur. Où est-ce que ça doit être purifié? À l'intérieur. Mais souvent, ce que l'on fait, c'est qu'on prend ce lait spirituel et on le lance sur les autres. T'en as besoin, faut que je te purifie. Mais d'abord, ce lait spirituel, il est pour qui? Pour nous. Qui a besoin de grandir? C'est nous d'abord. Qui doit montrer que le Seigneur est bon? Par ce lait qu'il a bu, c'est nous. Vous ne pourrez pas changer les autres. Vous ne pouvez pas les forcer à boire. Vous ne pouvez pas. Vous pouvez faire le malheureusement, on ne peut pas faire une transfusion de la parole. Vous mettez transfusion et c'est parti. Ça ne marche pas comme ça. Il faut que la personne désire ce lait spirituel. Mais pour qu'il le désire, il faut qu'il goûte que le Seigneur est bon. Sinon, il n'en voudra pas. Voilà pourquoi nous prêchons d'abord le salut, l'évangile. Jésus-Christ est mort à la croix pour tes péchés. Il est bon. Il a donné sa vie pour toi. Il est bon. Il n'a pas lésigné au fait qu'il est Dieu. Et est-ce qu'il a regardé comme statut comme étant plus important que vous? Non. Il est même parti en dessous de Dieu. Il est devenu homme. Mais pas juste un homme. Simple homme. C'est-à-dire qu'il n'est pas venu en tant que roi. Il n'est pas devenu en tant que président. Simple homme, fils de charpentier. Et de fils de charpentier, il est même allé plus bas. Il est venu en tant que serviteur. Il a descendu étage par étage jusqu'à arriver au plus bas, même en dessous de vous tous. Pour quelle raison? Parce qu'il est bon. Parce qu'il vous aime. Et il est allé jusqu'à obéir pour mourir à la croix. Il a donné sa vie pour des gens qui chaque jour lui disait « Ah oui, je t'aime, c'est ça ?» Pour des gens qui lui disaient quoi ?« T'es rien pour nous. Fais ce que tu veux. Puisque tu es le Messie, sauve-toi toi-même. Qu'est-ce que tu viens nous embêter dans notre vie ?» Vous n'avez rien demandé, vous l'avez rejeté. Mais lui, il a été bon. Il a choisi de mourir pour vous. Il a choisi de payer la mort pour vous. Tous ceux qui sont dehors, ils méritent une chose et ils vont obtenir une chose. Puisqu'ils restent dehors, c'est la mort. Pourquoi ? Par leur manière d'agir. Hein, vous savez, le danger, c'est dehors. Mais au final, le danger, c'est nous contre nous. Mais lui, il a payé pour toutes ces personnes qui sont mauvaises. Et moi, le premier. Moi, auparavant, quand j'entendais parler de Dieu, ça m'énervait. Je ne pouvais pas supporter. Et si vous demandez à ma femme, c'est même un mot que je ne prononçais pas de ma bouche avant que je connaisse ce Seigneur. Pourquoi ? Parce que quand je parlais de Dieu, mais qu'est-ce qu'il fait dans ma vie ? Moi, je disais, mais il ne me laisse pas faire ce que je veux. Moi, j'aurais voulu avoir ça dans ma vie. J'aurais voulu avoir ceci, etc. Et lui, il ne fait rien. Je ne le connaissais pas. Je n'avais pas goûté qu'il était bon. En fait, il a fait quelque chose de très important pour moi. Il a payé à ma place mon péché. Chose que personne ne peut faire. Et aujourd'hui encore, après avoir goûté qu'il est bon, après l'avoir demandé, délivre-moi. Donne-moi cette vie éternelle. Donne-moi ce salut. Il me l'a donné et aujourd'hui encore, il est toujours bon. Parce que chaque jour, en grandissant avec le Seigneur, je vous le dis tout de suite, après ma conversion, je n'étais pas devenu un homme parfait. Je vous le dis, j'ai encore péché. Et péché, et péché. Mais, j'ai grandi. Un peu comme un enfant. Un enfant, au début, vous n'allez pas vous plaindre parce qu'il ne sait pas marcher. Mais pourquoi tu ne marches pas ? Je ne dis pas ça. C'est évident qu'un enfant ne va pas marcher. Et puis quand il va grandir, vous n'allez pas vous plaindre en disant, mais pourquoi tu n'es pas responsable ? Il n'est pas responsable parce que c'est un ado, il faut lui apprendre. Et puis arrivé, quand il est jeune, je dis, mais t'as vraiment aucune expérience. Hein. Ben oui, il est jeune, il n'a pas d'expérience. Et c'est pareil avec le Seigneur. Vous étonnez pas quand vous avez un nouveau converti qu'il fasse encore des choses de nouveau converti, c'est-à-dire de bébé. Vous étonnez pas qu'en étant adolescent, il fasse des bêtises d'adolescent. Et quand il devient jeune, il fasse des bêtises de jeune. Mais nous, on leur enseigne pourquoi ? Pour qu'il n'ait pas les conséquences de ces bêtises-là, pour qu'il stoppe. Mais c'est normal qu'il le fasse. Mais notre rôle à nous, ce n'est pas de condamner, c'est d'annoncer l'évangile pour sauver. Et donc, quand vous avez des gens dans votre église qui ont besoin de salut parce qu'ils sont dans des problèmes, ne les jugez pas, offrez-leur le salut. La parole dit que la parole nous juge déjà. Vous savez, vous pensez, c'est pour ça que je dis que Dieu, ce n'est pas un Dieu qui condamne, c'est un Dieu qui sauve. La condamnation, vous savez pourquoi est-ce qu'on l'a ? Est-ce que vous savez pourquoi on est condamné ? Est-ce que c'est Dieu qui nous condamne ? Qu'est-ce qu'il dit ? Le salaire du péché, c'est la mort. Mais qui pêche ? C'est nous. Donc nous nous condamnons nous-mêmes. C'est un choix de l'homme. Il ne faut pas dire, ah c'est de la faute de Dieu si je suis condamné. Dieu n'est pas bon, Dieu n'est pas gentil. Si Dieu m'aimait, si Dieu ceci. Je dis non, Dieu t'aime, il s'est offert à la croix pour toi, il est venu en tant qu'homme. Mais toi, tu persévères dans quoi ? Dans tes péchés. Et donc, si vous êtes dans des péchés, venez à Christ, venez à Dieu. Et c'est ce qu'il dit au verset 4. Approchez-vous de lui. Mais pour s'approcher de lui, il faut avoir goûté qu'il est bon. Pour s'approcher de lui, il faut d'abord obéir et désirer ce lait spirituel. Et donc, rejeter toutes ces souillures qui sont dans notre vie. Et par défaut, vous savez ce que vous allez faire ? Vous allez vous approcher de lui. Plus près à chaque fois. Plus proche à chaque fois. Pourquoi ? Parce que votre vie le désirera. Parce qu'en entendant cette parole, vous le souhaiterez. Mais ne vous étonnez pas d'être encore un peu éloigné. Mais il faut s'approcher. Approcher. Et ce mot approcher, ce n'est pas un ordre. C'est un participe aussi. Comme rejetant. C'est-à-dire que c'est par la parole. Mais ça veut dire quoi ? Approchez-vous de lui. Qui est-il ? Une pierre vivante. Question, hein, juste pour la poser. Vous avez déjà vu une pierre vivante ? Hein ? Non, hein, personne ne sait à quoi ça ressemble. Hein. Mais lui, c'est une pierre vivante. Ça veut dire que c'est une pierre qui a la vie. Et une pierre, ça sert à quoi ? normalement. À bâtir. Donc c'est une pierre, elle est capable d'amener d'autres pierres à lui, pour construire quelque chose. C'est pour ça qu'elle est vivante. Elle n'a pas besoin de quelqu'un à l'extérieur pour prendre et poser au-dessus. C'est une pierre vivante. Et quand vous mettez une pierre sur une pierre vivante, l'autre pierre, elle devient quoi? C'est ce qu'il dit ici. Hein, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Donc quand une pierre se pose sur cette pierre, elle devient comment aussi? Une pierre vivante. Et les autres pierres vivantes, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont amener d'autres pierres à se poser au-dessus de cette pierre principale et au-dessus de nous et former une maison spirituelle. Donc, rappelez-vous ce texte, il parle à des chrétiens qui sont dispersés. C'est différent où Paul parle aux Colossiens, parle aux Philippiens, parle aux Éphésiens. Là, il dit à vous qui êtes dispersés. Et pour quel message qu'il leur dit? Il faut qu'ils désirent ce lait spirituel en s'approchant de qui? De la pierre vivante. Pour former quoi? Une maison spirituelle. Donc quand vous allez loin, où que vous soyez, vous devez former quoi? Une maison spirituelle. Vous savez ce que c'est qu'une maison spirituelle? Qu'est-ce que c'est qu'une maison spirituelle? C'est l'Église. C'est une maison où on est ensemble, où qui est-ce qui habite? Qui habite? C'est l'Esprit. Et l'Esprit, il habite là où il y a deux ou trois sont réunis, ou là où il y a les chrétiens, là où nous sommes présents. Et s'il y a l'Esprit, il y a forcément l'enseignement de la parole. Parce que le rôle de l'Esprit, c'est de rappeler ce que Jésus-Christ a dit. C'est ça une maison spirituelle. Et cette maison spirituelle, elle est là pour nous servir de salut dans notre vie de tous les jours. Et ça s'appelle comment? Ça s'appelle s'édifier. Il dit, hein, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Former une maison spirituelle, ça ne se passe pas en disant, allez, on fait une église, on prend toutes les personnes dehors et on les met à l'intérieur. Il faut s'édifier. Et s'édifier, ça passe par la parole de Dieu. Une église se forme par la parole de Dieu. Une église spirituelle se forme par la parole de Dieu. Vous savez, il y a des églises qui ne sont pas spirituelles. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'Esprit. Il n'y a pas la parole de Dieu qui est annoncée. Mais si vous voulez que cette église soit spirituelle, il faut la parole de Dieu. Et si elle est spirituelle, si elle a la parole, eh bien, on l'a vu, hein, ce lait spirituel est pur, il sert à quoi? À ce que l'on croisse, à ce que l'on grandisse pour le salut. Et donc, dans cette maison, on grandira ensemble. On s'édifiera pour le salut. Et c'est ça que nous cherchons, c'est ça que nous voulons. Nous ne voulons pas rester éparpillés. Et c'est le message de Pierre, où tous ces chrétiens disent, ne restez pas éparpillés, ne restez pas chez vous, dans votre coin, en vous disant, c'est bon, je n'ai pas besoin de vie d'église, je me suffis à moi-même, je n'ai pas besoin des autres. Une pierre toute seule, c'est quoi? C'est quoi une pierre toute seule? C'est une pierre. Vous pouvez jouer avec, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais c'est une pierre. Ça a quoi comme utilité? Rien. Mais ensemble, on peut construire quoi? Une maison spirituelle. Et une maison, c'est utile. Mais on se trompe souvent. On pense qu'on se suffit à nous-mêmes. Mais c'est bon, moi je lis la parole. Si tu lis la parole, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas t'approcher de lui. Pierre vivante. Et d'autres pierres avec lui. C'est pour ça, comme le dit le frère, le fait d'être toujours ensemble dans les réunions, vous allez faire quoi? Vous allez grandir. Et au début, on ne se rend pas compte, on se dit, ouais, mais quand je suis avec les frères, ouais, faut que je dissimule ma vie. Il faut que je fasse attention. Il y a des gens peut-être que, avec qui j'ai du mal. Ah, il faut que j'use un peu de ruse. Et ça, c'est notre manière précédente d'agir. Et quand on a cette manière précédente d'agir, c'est sûr qu'on ne veut pas s'approcher. On a encore des choses qu'on ne veut pas montrer aux autres. On a encore des choses qu'on ne veut pas partager en tant que pierre. On va dire, oui, mais moi, je préfère être une pierre à part. Parce que sinon, ils vont voir que là, ce n'est pas très droit. Mais je vous le dis, je vous rassure tout de suite. Hein. Un pasteur avait dit, s'il y a une église parfaite, je ne viendrai pas. Pourquoi? Parce qu'avec moi, ça va être imparfait. Personne n'est parfait. Et nous sommes là pour nous édifier. Chacun a des problèmes différents. Chacun a des choses qui lui sont difficiles dans le Seigneur, mais nous, nous prêchons l'Évangile, et l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour sauver, non pas pour condamner. Alors venez à Dieu, soyez sauvés, demandez-lui, pardon Seigneur, je ne veux plus de cette ruse, je ne veux plus de cette dissimulation, de cette médisance, de toutes ces choses qui sont à l'intérieur et qui me rongent et qui me forcent à ne pas aimer les gens, qui m'empêchent d'approcher les autres. Ces choses qui me mènent à la mort. Je veux goûter ton salut. Je vois que tu es bon, je veux goûter ton salut. Et aujourd'hui, vous pouvez le goûter, il suffit juste de dire, donne-le-moi. Il l'a déjà promis. Ce n'est pas quelque chose qu'il cache. Et il vous le révèle. C'est pour ça qu'il dit que c'est un évangile. Et évangile, ça veut dire quoi? Une bonne nouvelle. Et une bonne nouvelle, qu'est-ce qu'on fait quand on a une? Vous le gardez pour vous? Vous la partagez, vous l'annoncez. Et cette bonne nouvelle, elle est pour chacun aujourd'hui ici. Désirez le lait spirituel et pur, celui qui va vous nettoyer. Approchez-vous de lui. Bâtir un édifice, cette maison spirituelle. Vous savez ce qu'on fait dans une maison spirituelle? On a dit qu'on se rapproche les uns des autres. C'est bien, on s'édifie, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'on y fait? Le verset 5 nous dit, « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréable à Dieu par Jésus-Christ. » Qu'est-ce qu'on fait dans une maison spirituelle? On offre, on exerce un saint sacerdoce. Alors, peut-être un mot qui est un petit peu violent pour certains, parce que c'est peut-être un peu ancien, mais grosso modo, c'est vous exercez un ministère de sacrificateur. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire que vous avez un rôle, c'est d'apporter des sacrifices. Dans cette maison spirituelle, vous devez amener des sacrifices. Comme dans le temple, dans l'Ancien Testament, vous ameniez vos sacrifices. Est-ce que vous avez amené des sacrifices aujourd'hui? Est-ce que vous avez amené des sacrifices? Ah, c'est une question. Est-ce que vous avez amené des sacrifices? Et si oui, quoi? Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles. Un sacrifice spirituel. De quoi est-ce qu'on parle? Quelle est cette victime spirituelle que vous amenez? C'est nous-mêmes. Vous n'allez pas amener quelqu'un d'autre en sacrifice ici à l'église. Vous allez amener une personne. C'est vous. Non seulement vous êtes le sacrificateur, mais vous êtes aussi le sacrifice. Et vous avez vu comment ils font dans l'Ancien Testament quand il y a un sacrifice? Ils font quoi avec? Dites-le-moi, ils font quoi avec?
Les gens qui versent le sang sur l'autel.
Et après, ils le brûlent. Ils le brûlent. Et normalement, même, ils le brûlent et il y a une part qui va être consumée et une part que les vides vont consommer. Et vous savez, quand vous venez à l'église, c'est pareil. Il y a une part qui va être consumée et une part que Dieu va consommer. Qu'est-ce qui va être consumé à votre avis? Rejetant donc toute ruse, toute dissimulation, l'envie, la médisance. Et qu'est-ce que Dieu va consommer? C'est votre personne, ce qu'il reste, ce qui lui est agréable. C'est ce qu'il dit. Afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Ce qui reste, ce que lui va transformer, ce que lui va changer, ce qui lui, pour lui, est agréable. Mais il faut qu'il consume des choses dans notre vie. Mais des choses qui nous sont difficiles à donner parfois. On a dit, ah non, je ne vais pas offrir ça en sacrifice. Ah mais ça, ça je ne peux pas vivre sans. Ça c'est important pour moi. Si Jésus-Christ avait raisonné comme ça, ça c'est important pour moi, vous savez ce qu'on aurait aujourd'hui? Rien. Et la Bible ne le dit pas juste avant, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Si vous avez ces sentiments-là, vous ferez la volonté de Dieu. Et si vous faites la volonté de Dieu, vous aurez le résultat que Dieu a prévu pour vous. Et vous savez c'est quoi le résultat? C'est le salut, mais c'est un terme, là on parle d'un salut qui est la sainteté. Une vie qui est moche ou belle? Une vie qui est pénible ou légère, douce. Une vie de guerre ou une vie de paix. C'est un choix à vous de le faire. Si vous obéissez à la parole, vous aurez le résultat que Dieu a promis pour vous. Si vous obéissez à votre propre intelligence, votre propre entendement, vous aurez le résultat de tous les hommes qui agissent selon la manière dont ils veulent agir. Voilà pourquoi il dit dans Pierre au début, il veut amener les chrétiens à l'obéissance de la foi, parce que l'obéissance mène à votre salut. Que vous soyez sauvés, c'est la volonté de Dieu. Que vous soyez disposés à faire la volonté de Dieu. Beaucoup de passages parlent de ce sacrifice. Dans Romains, on le voit souvent. Je vous lis juste le passage, il dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte... » Comment ? Exceptionnel. Raisonnable. C'est la norme. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Vous ne pouvez pas faire autrement. Si vous n'acceptez pas d'exercer votre ministère de sacrificateur et de vous offrir en sacrifice, vous ne verrez pas cela. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous appelle quand vous êtes ici. Je nous appelle tous à accepter quand Dieu nous dit quelque chose. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, est-ce qu'il va vous donner quelque chose de mauvais derrière ? Jamais. Peut-être que vous ne comprendrez pas comme un bébé ne comprend pas toute la composition du lait. Mais goûtez-le à chaque fois et vous verrez que c'est bon. Vous verrez que ça va travailler dans votre vie. Vous verrez que vous serez transformé. Vous le verrez. Je vous le garantis. Pas parce que c'est moi, mais parce que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. C'est une promesse de Dieu. Et il le fera. Dieu ne ment pas. Et beaucoup de vies pourront le témoigner. Voilà pourquoi ne restez pas loin de lui. J'espère qu'ici tout le monde a déjà goûté que le Seigneur est bon. J'espère que chacun a accepté Christ comme étant la pierre vivante sur laquelle il veut bâtir sa vie. Si ce n'est pas le cas, le contraire de pierre vivante, c'est pierre morte. Et une pierre morte, on ne va rien en faire. Si ce n'est pas le cas, c'est aussi le jour pour vous de venir à la vie. Non pas parce que vous aurez pouvoir le faire de votre force, mais cette pierre vivante, elle a le pouvoir de donner la vie aux autres pierres. Il suffit juste de lui demander, d'une prière. Dire simplement, Seigneur, aujourd'hui, je veux cette vie. Je veux être à toi. Si vous avez déjà goûté que cette pierre est la pierre vivante et que le Seigneur est bon, alors vous avez un rôle, édifier. Édifiez cette maison spirituelle. Ne restez pas à part. Édifiez-la. Amenez d'autres dans cet édifice, mais édifiez-la et toujours par cette même parole. Prenez cette parole, buvez-la, purifiez-vous avec, rejetez toutes les souillures qui rendraient cette pierre difforme. Une pierre, avant de la mettre dans le mur, vous faites quoi avec ? Vous la taillez. Si vous mettez des pierres les unes par-dessus les autres, bon, ça peut marcher, mais ça ressemble à une grotte. Hein. Mais là, on parle d'une maison. Et tailler, ça fait mal. Mais tailler, c'est nécessaire. Le plus important, encore, c'est que ce n'est pas une grotte, c'est une maison. Savez-vous pourquoi on fait une belle maison ? Qui habite dans cette maison ? C'est une maison spirituelle. Donc, qui habite dans la maison ? C'est l'esprit. Quelle maison désirez-vous bâtir pour votre Dieu ? Soyons agréables à Dieu dans cette belle maison. Offrons-lui les sacrifices qu'il nous demande. Approchez-vous de lui, pierre vivante. Amen. Prenons un temps dans la prière. Seigneur, je veux te remercier d'abord. Merci parce que tu es bon. Ah, j'ai pu voir, goûter, sentir toute ta bonté, Seigneur, dans ce salut. Ce salut qui n'est pas un salut ordinaire, mais un salut qui a coûté la mort à celui qui était innocent. Un salut éternel, un salut qui est certain parce qu'il vient du Dieu unique, toi, de l'éternel. Merci pour ce beau salut. Merci Seigneur parce que je n'ai rien fait pour le mériter, mais tu me l'as offert. Offert à moi qui étais ton ennemi, moi qui étais un moqueur, qui me moquais de ton nom. Mais aujourd'hui Seigneur, je veux louer ton nom, glorifier ton nom, qu'il est bon de t'appartenir. Merci Seigneur pour cette église où ta parole est annoncée, cette église où ta parole nous édifie, qu'elle puisse grandir, qu'elle puisse Seigneur connaître, Seigneur, une croissance encore plus grande qu'elle ne l'a déjà connue, qu'elle puisse Seigneur t'être agréable dans tout ce qu'elle fait, car c'est ce que tu prépares pour elle. Merci Seigneur parce que c'est toi qui œuvres, c'est toi qui es notre force et nous voulons Seigneur tout bâtir au-dessus de toi. Que tu sois effectivement cette pierre vivante. Merci pour cette vie. Pendant que je m'arrête dans cette prière, je voudrais m'adresser à vous. Vous peut-être qui n'avez pas goûté que le Seigneur est encore bon. Vous peut-être qui vous dites aujourd'hui, j'ai besoin de ce salut. J'ai besoin de rejeter tout ça dans ma vie. J'ai besoin de changer. C'est l'occasion que Dieu vous donne. C'est l'occasion que Dieu met devant vous. Il suffit juste d'un choix de votre part. Et si vous faites ce choix aujourd'hui, faites juste un geste de la main. Levez juste cette main en vous disant, aujourd'hui Seigneur, je veux te suivre. Aujourd'hui Seigneur, je veux goûter ta bonté. Aujourd'hui Seigneur, je veux connaître ce salut. Il est libre pour tout le monde. Il ne vous fera pas de reproches. Il ne vous dira pas, mais pourquoi c'est maintenant que tu viens? Non, il dit, viens, car je t'aime. J'ai payé pour toi. Ne le rejetez pas. Si vous le rejetez aujourd'hui, vous persévérerez dans la mort. Or Dieu vous aime, il ne veut pas de cela. Oui Seigneur, je te remercie. Merci Seigneur parce que toutes les âmes ici ont entendu parler de ton nom. Que chacun puisse avancer selon sa part, que personne ne s'éloigne sans avoir reçu ta part. Merci Seigneur encore pour le reste de cette matinée que nous avons, que nous puissions Seigneur encore prendre du temps à discuter Seigneur pour que tu sois glorifié dans nos conversations aussi. Et merci Seigneur en tout cas pour cette église encore une fois et bénis-la Seigneur dans la suite de son œuvre. Sanctifie cette prière. Amen. Amen. Voilà. Il n'y a plus où ? Il n'y a plus où ? Bon. Non ? Voilà, mais merci au frère Ando hein, qui a fait le déplacement jusqu'à nous. Cannes, c'est pas très loin, mais quand même, il faut faire. Merci pour aussi la prédication claire. Hein. Nous sommes sauvés, mais nous ne sommes pas sauvés pour être sauvés. Hein. Il y a un au-delà. On est sauvés, mais maintenant on veut construire une maison digne du Seigneur. C'est lui qui nous appelle à ça. C'est une grâce. Hein. C'est une grâce. Et nous devons le faire ensemble. Nous devons le faire ensemble. Voilà. C'est comme ça qu'il nous réunit. C'est beau. Hein. Alors, on marche. Hein. C'est en construction, hein, tout ça. Hein, voilà. Donc, si... Si le frère d'à côté, on dira, faut soi-même être double dans la sanctification, hein, c'est tout. Hein, voilà. Donc, voilà. En tout cas, on marche ensemble et on n'oublie pas de prier les uns pour les autres. Hein. Comme le frère l'a dit, il y a des conversations après le culte, il y a des partages, etc. Et je crois que c'est bien qu'on en fasse, pendant ces partages, on entend le souci de l'un, de l'autre, les doléances de l'un, de l'autre, la conduite qu'il aimerait avoir. Et tout ça, on peut le garder. Hein, on peut le garder. C'est un sujet de prière qu'on ajoute à notre liste de sujets de prière. Et dans la semaine, si vous faites ça, vous aurez des sujets de prière. Voilà. Donc, pensons bien à prier les uns pour les autres. Je vous rappelle, jeudi soir, la réunion. Notre réunion en semaine. Jeudi soir à 19h30. Et puis, dimanche prochain,
C'est la journée fraternelle, hein, c'est le deuxième dimanche, c'est la journée fraternelle. Donc le matin, on a le culte et la scène, et l'après-midi, on se retrouve chez Steve à appuyer sur argent. Voilà, pour les partages, partage d'échanges, la parole, témoignages parfois. Voilà. Je vous dis, ne pas oublier de prier pour Steve, hein, qui retourne du Maroc demain. Voilà, on espère qu'il aura été en bénédiction à tous les frères au Maroc, hein, qui ne vivent pas bien la même chose que ce que nous vivons ici. Et voilà, on prie pour son retour. Et dimanche prochain, il sera avec nous. Donc. Pas jeudi, mais dimanche prochain, il sera avec nous. Voilà, ben, je vous souhaite un bon dimanche. Hein. Merci à tous.
Thank you.